7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
T'es déjà en mode Saint-Valentin?
On n'a pas le choix, Paul. Faut planifier dans la vie. Là, on est le 11 février.
Ouais.
Avant de faire la grande demande de l'amour commercial cette semaine, j'aimerais attirer votre attention ce lundi sur le modèle d'affaires. Oui, Paul, l'amour, c'est un modèle d'affaires. T'as beau dire que le cœur l'emporte, mais au bout du compte, l'amour, c'est fiscal et financier, j'en parle à chaque année. Donc, je me suis dit, quel type d'amoureux financier êtes-vous? Ça va influencer votre choix cette semaine si vous êtes pour conclure un partenariat financier. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle le modèle prudent. C'est quoi le modèle prudent? C'est quand tu cherches un partenaire qui te ressemble financièrement. Deux personnes d'âge similaire, des revenus similaires, des régimes de retraite similaires, avantages sociaux similaires. Deux profs de cégep ou de secondaire, exemple. Les avantages? T'as plus de sécurité d'emploi, tes revenus sont prévisibles. La séparation des dépenses n'est pas vraiment une chicane parce qu'on est égal. Chacun a ses affaires, t'as des épargnes forcées de ton employeur. Donc, c'est ce que j'appelle le modèle prudent. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de grand coup de circuit possible au niveau de l'investissement. Puis aussi, le fractionnement de revenus à retraite, ben tu peux pas planifier ça, c'est déjà fait pour toi. Le deuxième modèle que j'aime bien, c'est le modèle gestion de risque. Ça, c'est mon préféré. C'est un travailleur autonome et un salarié qui forment une union fiscale, financière et amoureuse. Pourquoi? Ben, un, le salarié te procure des avantages sociaux comme des assurances collectives à plus faible coût qu'au privé. T'as une hausse de revenus possible élevée pour l'un des partenaires, mais tout en ayant la satisfaction d'avoir quelqu'un qui apporte un revenu sécuritaire dans le salarié. Donc, travailleur autonome t'apporte plus de volatilité de revenus, mais t'as quelqu'un qui compense le risque. Donc, à deux, vous avez les plus et les moins d'être ensemble. En plus, tu peux amortir fiscalement le revenu de un en l'incorporant. Troisième modèle intéressant, les deux travailleurs autonomes. Ça, ça peut être un beau modèle d'affaires. Deux travailleurs autonomes qui s'unissent dans l'amour, l'allégresse et le but de partager de quoi. L'avantage, on peut maximiser la fiscalité. Imagine-toi deux travailleurs autonomes incorporés qui disent « on va vivre de simplicité volontaire ». T'sais. Donc, ils laissent tout l'argent dans la compagnie, paient juste l'impôt des corporations, vivent un petit train de vie. Et puis là, on peut recevoir à chaque année, tu sais, le crédit pour solidarité, faire presque pas de revenus parce qu'ils peuvent moduler leurs revenus. Puis en plus, quand ils vont vendre leur compagnie incorporée, si c'est possible, ils peuvent profiter de l'exonération cumulative pour gains en capital sur actions admissibles de petites entreprises de 866 912 $ en 2019. Je sais que c'est bizarre de parler de ça à Saint-Valentin, mais ça se peut. Il y a le quatrième modèle, ça c'est le modèle demi-honnête, que j'appellerais le modèle Vaillancourt ou Accurso. Disons que ça c'est le modèle où tu formes une union avec quelqu'un qui déclare pas tout ce qu'il fait. Tu sais, c'est genre de, t'as un petit peu de travail au noir la fin de semaine. Moi je compte ça, tu sais, je suis CPA, mais quand même, j'en parle. T'as l'avantage de vivre un niveau de vie plus élevé avec cette personne-là. Donc, tu te matches, puis là, la personne te paie des affaires parce qu'elle paie pas tout son impôt. Le désavantage, c'est au moment de la séparation. Parce que la personne qui a pas tout déclaré ses revenus, ben lors de la séparation, son revenu officiel pour calculer la pension alimentaire est beaucoup plus faible que le réel. Et de l'autre côté, la personne qui sait que l'autre fraude peut la menacer de la déclarer au fisc si jamais elle n'est pas ce qu'elle veut. Donc, c'est une arme à double tranche. Cinquième modèle de relation d'affaires qui pourrait se concrétiser à la Saint-Valentin, l'écart d'âge significatif. Tu sais, un bon écart d'âge, il y a un avantage que je vois vraiment, là. C'est quand le plus vieux ou la plus vieille a un régime à prestations déterminées. Là, t'as quelqu'un qui cotise toute sa vie pour un régime à prestations déterminées. Il y a 20 ans d'écart entre les deux amoureux, et puis la personne décède à la retraite. Mais le conjoint peut avoir une rente du survivant. Donc, t'imagines-tu, mettons que t'as droit à 50% de la rente de ton conjoint, ta conjointe à son décès, mais que t'as 20 ans de moins. Hey, tu l'as-tu rentabilisé ton investissement dans ton régime de retraite? Non, mais Paul, pense-y, t'as cotisé pour une vie, mais tu reçois pour deux. Ça, c'est vraiment l'avantage. Bon, il y a le sixième modèle que j'appelle le coup de circuit. Ça, c'est le seul couple que je parle vraiment d'un moment optimal de séparation. Ça, c'est les modèles athlète professionnel ou la jeune vedette. Donc, imagine quelqu'un qui, entre 20 et 30 ans, fait beaucoup d'argent. Genre un joueur de hockey. Ou un athlète professionnel ou une vedette de la chanson. OK? Mais beaucoup d'argent relativement. Et c'est là que cette personne-là va gagner la majorité de ses revenus. Alors, quand une personne se matche avec quelqu'un comme ça à la Saint-Valentin, qu'est-ce qui se passe? Si on vit 10 ans ensemble, on se marie, puis une séparation après les années de gloire, comme un joueur de hockey, mettons, ben tu viens capter au divorce, une bonne partie de son patrimoine familial sans avoir passé la majorité de la vie avec, mais tu captes la maximisation de la valeur. Ça, c'est vraiment intéressant. Dernier point, il y en a d'autres aussi, le modèle relation court terme. Ça, c'est les gens qui changent souvent de partenaire à la Saint-Valentin. Je trouve ça bien dommage au niveau fiscal. Parce que, non, mais pas le pauvre. Parce que quand t'es un couple à court terme, ou quand t'es un célibataire qui change souvent, ou une célibataire, c'est que t'as aucune planification fiscale à long terme possible. T'as aucun partage de risques financiers à long terme. Tu peux pas vraiment tout le temps profiter d'être à deux longtemps et d'amortir les coûts fixes et fractionner le revenu à la retraite. Donc, tu peux pas planifier ta vie ensemble et ça te fait perdre de la valeur économique. Et finalement, il y a le modèle subvention. Un gros écart de revenus. Bon, dans ce cas-là, tu as l'avantage qui est le désavantage. Tu sais, tu as une dépendance économique au niveau de l'autre, mais en même temps, tu as l'avantage d'être subventionné implicitement par quelqu'un. Donc ça, évidemment, ça peut créer des plus et des moins. Donc tu vois, Paul, ce que je voulais souligner ce matin, c'est à quel point l'amour, c'est très financier et très fiscal. Et avant de faire la grande demande à la Saint-Valentin, lors du souper au restaurant où tout le monde est forcé d'être là, dites-vous, est-ce que mon conjoint ou ma conjointe correspond à mon modèle d'affaires désiré? Là, j'en ai donné quelques-uns.
Oui, mais je pense qu'on va, propager par les médias sociaux ta chronique pour que les gens choisissent, ou en tout cas s'identifient à leur modèle.
Oui, oui, parce que chacun choisit son modèle. Mais Paul, à la fin de tout ça, tu sais, on a beau parler de finances, puis de logique, puis de rationalité, mais l'amour, c'est pas toujours rationnel, et ça vient de ma bouche ce matin. Incroyable.
C'est incroyable, parce que, tu sais, je me dis, il va finir comment? Et là, mais tu finis avec les sentiments, c'est beau.
Oui, mais juste vous dire, c'est peut-être mieux de donner un cadeau en CELI qu'en REER. Comme ça, si vous faites quitter, vous pouvez vous arranger que la personne vide son CELI avant la séparation.
Va te coucher. Salut. Il est 7h24.